Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris et vous retrouvez tout de suite l'émission Petite Consultation entre Amis.
C'est fini, on a fait tout ce qu'on pouvait.
Petite Consultation entre Amis. L'émission de santé totalement décomplexée, le samedi à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris, dans lequel nous disséquons cette semaine l'actualité, en commençant par l'actu santé bonheur et comment manger gratos et faire une bonne action. Vous nous expliquerez tout ça, docteur Julie. Les infos qu'il faut, c'est le docteur Marion qui nous les présentera. Se faire de la bile, c'est l'expression rigolote avec le docteur Adrien. Le mot du médecin, sudoku, docteur Marion nous expliquerait d'où ça vient, rien à voir avec le sudoku. Et enfin, on ira voir du côté des forums sur internet et on parlera du sida du chat et on finira par les temps attendus, bref, de salles d'attente. À vos stéthoscopes, la consultation peut commencer. Ça y est, enfin en direct sur le plateau de Radio Campus Paris avec une belle brochette de spécialistes. Docteur Julie, la voix chaude et suave de Radio Campus Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Tout va bien?
Ça va et vous?
Parfait. Docteur Adrien, notre spécialiste de tout, surtout de rien d'ailleurs.
Eh oui, bonsoir Loïc.
Bonsoir docteur Adrien. Et puis docteur Marion, notre un peu médecin tête de bois, têtu, tétologue.
Tétologue, tout à fait.
Tétologue. Allez, avant de commencer par les différentes chroniques, on se fait un petit tour de l'actu santé.
Donc Loïc, aujourd'hui attention sur les femmes ont aussi un cœur fragile.
Exactement, contrairement à une idée largement répandue, les maladies cardiovasculaires ne sont pas l'apanage des hommes d'âge mûr, loin de là. Elles constituent même la première cause de mortalité chez les femmes en France et elles touchent de plus en plus de personnes jeunes. En tout cas, c'est l'un des messages que les spécialistes voulaient faire passer à l'occasion de la Journée mondiale du cœur, mardi dernier. Les infarctus du myocarde chez les femmes de moins de 50 ans ont triplé au cours des 15 dernières années, rappelle le professeur Claire Mounier-Veillé, présidente de la Fédération française de cardiologie. Mais cet accident aux conséquences potentiellement dramatiques provoque souvent des symptômes différents de ceux ressentis chez les hommes. Alors chez les hommes, généralement, ils se plaignent d'une douleur dans la poitrine qui va irradier dans la mâchoire et dans le bras gauche. Alors par contre, ce signal d'alerte typique est absent dans près de la moitié des cas chez les femmes. Les femmes, elles, se plaignent plus fréquemment d'une douleur au milieu du dos, d'un essoufflement, de palpitations à l'effort, de nausées et d'une fatigue inhabituelle. Bref, tous ces troubles sont parfois considérés comme des manifestations de crise d'angoisse et sont donc largement négligés. D'ailleurs, un petit chiffre assez éloquent, les femmes hésitent à appeler le SAMU et elles mettent en moyenne 60 minutes de plus que les hommes à appeler. Conséquence, toutes les études montrent qu'elles sont bien moins dépistées et moins bien prises en charge, en tout cas plus tardivement et donc moins bien traitées que leurs compagnons.
Et maintenant Loïc, donc plutôt une bonne nouvelle, plus on est petit, moins on a de cancer.
Effectivement Marion, c'est l'étonnante conclusion des résultats d'une nouvelle étude qui affirme que les personnes plus grandes auraient un risque accru de cancer. Cette étude a été présentée lors d'une conférence de la Société européenne d'endocrinologie à Barcelone et de précédentes études avaient déjà pointé des résultats analogues mais aucune n'avait encore été réalisée à si grande échelle. En tout cas une bonne nouvelle pour ceux qui se trouvaient trop petits.
Alors comment ont-ils procédé ?
Alors les données de taille et de santé de 5 millions de Suédois et de Suédoises d'ailleurs, nés entre 1938 et 1991, ont été passées au crible. Bref, un échantillon gigantesque couvrant sur plusieurs générations.
Qu'est-ce que l'étude a montré ?
Alors l'étude a montré quoi ? Les chercheurs ont mesuré que le risque de cancer augmenterait de 10% chez les hommes pour chaque hausse de taille de 10 cm. Bon, en gros, les personnes de grande taille ont en particulier un risque accru de mélanome de 30%. On le rappelle, le mélanome, c'est le cancer de la peau. Alors cela serait particulièrement remarquable chez les grandes femmes. Pas de chance pour vous, docteur Marion. Une femme mesurant 1m72 a un risque accru de 18% d'avoir un cancer par rapport à une femme mesurant 1m62. Bon, les grandes ont par ailleurs un risque plus grand de 20% d'avoir un cancer du sein par tranche de 10 cm supplémentaire. Bref, faites vos calculs, mais ça paraît pas très bon pour vous.
Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer ?
Bon alors évidemment, docteur Marion, on ne va pas changer sa taille. Hein, mais l'auteur d'une précédente étude, publiée en 2013, avait souligné que le cancer résultait d'un processus lié à la croissance. Et donc, finalement, quand on y réfléchit, il est plutôt logique de penser que les hormones de croissance pouvaient accroître le risque de cancer. Il serait donc peu recommandable d'utiliser, en tout cas, les hormones de croissance. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième élément, nous rappelle le professeur Mel Greaves de l'Institut de recherche sur le cancer. Les personnes de grande taille ne doivent pas s'inquiéter dans la mesure où les principaux facteurs de risque des cancers ne sont pas la taille. On le rappelle, les grands facteurs de risque, c'est le tabagisme, l'obésité, l'hérédité et également la sédentarité. Bref, en tout cas, des détails peu considérés par l'étude et donc affaires à suivre en ce qui nous concerne.
On reste dans la taille, docteur Loïc, avec une nouvelle étude qui met en avant que les grands pourraient conclure 1 à 3 fois plus que les petits.
Effectivement, alors ça c'est une bonne nouvelle pour vous, docteur Adrien. On s'en doutait un peu, mais rien de tel qu'une bonne étude scientifique pour rappeler et entériner les fondamentaux. Les hommes de taille moyenne à très grands sont donc bel et bien plus attirants sexuellement que les petits. Les femmes plus grandes ont elles aussi une longueur d'avance sur le marché de l'accouplement. Alors si l'expérience nous a aidé à faire le point sur nos chances, des chercheurs alors de la Chapman University en Californie sont donc eux allés plus dans le détail. Et pour ce faire, ces scientifiques ont interrogé 60 000 volontaires hétérosexuels, parmi lesquels 52% d'hommes et donc 48% de femmes âgées en moyenne de 47 ans. Parmi les facteurs, la taille, le niveau d'éducation, l'âge et l'indice de masse corporelle ont été intégrés comme indicateurs principaux dans l'histoire sexuelle de la personne et de chacun. Les résultats publiés ce mercredi dans la revue indiquent que les participants âgés de 30 à 44 ans avaient eu en moyenne 8 partenaires depuis le début de leur vie sexuelle. La taille et l'indice de masse corporelle mis en relation avec ce nombre d'amants, il s'avère ainsi que les hommes de petite taille avaient eu moins de 5 partenaires. Au contraire, ceux de taille moyenne ou grande avaient conclu 1 à 3 fois plus que leurs copains plus petits. Bon, ces résultats, ils indiquent que la taille est un critère pertinent sur le marché de l'accouplement, affirme le docteur David Frédéric, l'auteur principal de cette étude. Bon, pour autant, le chercheur ne dispose pas d'explications scientifiques claires pour établir ce lien, et si ce n'est que le constat que les femmes sont souvent attirées par les hommes plus grands qu'elles. Et aussi, joli lot de consolation pour les costauds, pour les personnes un peu fortes, les hommes de corpulence normale et ceux en léger surpoids rapporteraient un nombre plus élevé de partenaires sexuels, contrairement à ceux en insuffisance pondérale. Les hommes de forte corpulence, perçus comme plus puissants et généralement plus sportifs, comptent le plus de partenaires sexuels, rapporte en effet le chercheur. Et alors, pour les femmes, rassurez-vous, c'est un peu la même chose chez les femmes, en tout cas. Contrairement aux idées reçues, c'est les demoiselles trop maigres, eh bien, malheureusement, en fait, recense le moins d'aventures sexuelles, en tout cas, dixit le fameux David Frédéric. En gros, on peut y aller et grossir tranquillement.
Merci Loïc pour ces actus.
Allez, on trouve tout de suite l'astuce santé bonheur. Docteur Julie, vous nous parlez de comment manger gratos et faire une bonne action.
En effet Loïc, j'ai trouvé le bon plan santé bonheur. Comment bien agir et gratuitement se nourrir en donnant son sang. En effet, après un don du sang, vous êtes offert une collation et une boisson. De quoi se rassasier après avoir fait le don de soi. Mais alors Loïc, plus sérieusement, pourquoi est-il important de donner son sang? Il faut savoir que le don du sang permet de sauver des vies. Et il n'existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain. Chaque année, 3 millions de dons de sang permettent de soigner 1 million de malades. Donc soit en obstétrique, par exemple lors d'un accouchement, soit lors d'une intervention chirurgicale, soit pour certaines maladies du sang, ou encore pour fabriquer des médicaments. Mais alors Loïc, qui peut donner son sang? Toute personne reconnue médicalement apte au don par le médecin de l'établissement français du sang. Il faut être âgé de 18 à 70 ans, et il faut peser au moins 50 kilos pour pouvoir donner son sang. Alors comment donner son sang Loïc?
Ça c'est que de questions, docteur Julie, mais oui. Mais vous allez y répondre.
Alors voilà, il faut se rendre dans un établissement français du sang. Donc le don du sang est anonyme, donc la première étape c'est l'inscription. Donc comme c'est anonyme, ça veut dire que le donneur et le receveur ne peuvent pas se connaître. En revanche, l'identité du donneur doit être précisément enregistrée en fait, dans les registres. Ceci est indispensable pour assurer la traçabilité des dons et pour garantir la bonne attribution de chaque produit en fonction des groupes sanguins bien sûr. Donc l'étape 2, un petit questionnaire médical. Donc c'est un document qui est adressé à domicile avec l'invitation pour les donneurs qui sont déjà enregistrés. Et pour les nouveaux donneurs, c'est un questionnaire qui est à remplir sur place et donc qui prend environ 10 minutes. Suite à cela, il y a l'étape 3 avec un entretien médical. Donc c'est un entretien confidentiel avec un médecin qui permet d'identifier les situations qui pourraient empêcher le don pour préserver la santé du donneur et pour assurer la sécurité du receveur des produits sanguins. Le principe de précaution est largement appliqué. En moyenne, il faut savoir que 6% des donneurs ne sont pas admis au don. Et le plus souvent, c'est de façon temporaire. L'étape numéro 4, le prélèvement. Donc, une fois que le donneur est admis au don, il s'installe sur un lit tranquillement et le prélèvement dure entre 6 et 7 minutes pour prélever en moyenne 500 ml de sang. Et l'étape numéro 5, c'est là que ça croustille. Après le don, une surveillance de quelques minutes est nécessaire. Durant ce temps, une collation est servie. Croque-monsieur, pain au chocolat, boisson. Et c'est un moment privilégié de dialogue et d'échange avec les autres donneurs. Donc pour en savoir plus, rendez-vous sur dondusang.net et à très vite.
Donc don du sang, le don du sang, c'est une priorité de santé publique, mais surtout ça permet de manger gratos. Merci docteur Julie pour ces infos.
De rien.
On retrouve tout de suite les infos qu'il faut. Docteur Marion, vous êtes allé chercher pour nous de multiples journées mondiales et des conférences à n'en plus finir.
Oui, donc tout à fait. Pour la semaine prochaine, important donc à noter dès demain, dimanche 11 octobre, la journée mondiale des soins palliatifs, donc qui a lieu chaque année, comme le dit la journée mondiale. C'est une journée mondiale qui vise en fait à soutenir et garantir l'accès aux soins palliatifs pour tous, quelles que soient les conditions de ressources, le milieu social, les lieux de résidence ou encore la maladie qu'on peut porter. Donc l'idée étant de, durant ces journées, de solliciter les pouvoirs publics, etc., pour une prise de conscience générale sur ces sujets.
Donc ça, c'est la journée mondiale, c'est demain, la journée mondiale des soins palliatifs. Et puis, vous avez également des conférences.
Tout à fait. Donc, une conférence pour laquelle on vous invite à vous rendre, en fait, qui aura lieu donc le 14. Donc cette conférence qui aura lieu le 14 octobre, mercredi, à l'Académie nationale de médecine. C'est une conférence qui est organisée par le Secours populaire et l'Académie nationale de médecine sur le sujet précarité, pauvreté, santé, qui vise donc à échanger sur ces inégalités, sur l'accès aux soins, les dispositifs qui existent, quelles en sont les limites, la vulnérabilité effectivement des personnes en situation de précarité face à, aux soins. Et donc le parcours des personnes précaires dans ce système de santé.
Un lieu, du coup, où est-ce que ça se trouve cette conférence ?
Oui, tout à fait. Donc cette conférence aura lieu à l'Académie nationale de médecine, donc, qui se trouve dans le 6e arrondissement, 16 rue Bonaparte. Vous pouvez trouver toutes les informations, le programme et les inscriptions sur le site de l'ARS, Agence Régionale de Santé de l'Île-de-France.
Merci beaucoup, docteur Marion. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris et on va passer à une petite page musicale et on va écouter Gibraltar de Beyrouth, un titre qui fait partie de notre playlist. Campus Paris avec l'émission Petite Consultation entre amis en direct et on se retrouve tout de suite avec le docteur Adrien et l'expression rigolote qui est se faire de la pile.
Dans la vie faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas.
Alors docteur Adrien, du coup se faire de la pile ça signifie quoi? On connaît un peu l'expression.
Alors, docteur Loïc, comme vous le savez sûrement, c'est une expression qui est quand même assez répandue. Se faire de la bile, c'est se faire du souci. Donc, à tort ou à raison, mais c'est ça, se faire du souci.
Alors, concrètement, ça vient d'où l'expression se faire de la bile ?
Alors, d'où ça vient ? Si vous voulez, dans la physiologie ancienne, on associait, à tort encore une fois, la bile et l'irritabilité, la mauvaise humeur. Donc, peut-être à cause du mauvais goût âcre un petit peu de la bile, on ne sait pas.
Alors, la bile, c'est quoi quand on regarde un peu le corps humain ? Expliquez-nous un peu d'où ça vient et comment ça fonctionne.
Alors la bile, en fait, c'est un mélange d'acides biliaires hein, qui sont sécrétés par le foie et de cholestérol. Donc comme quoi, ils n'avaient pas totalement tort dans l'ancien temps, finalement, puisque la bile est bien sécrétée par le foie. Ensuite, elle est stockée dans la vésicule biliaire. C'est une petite poche en forme de poire qui est située juste en dessous du foie. Comme c'est pratique, la nature est bien faite. Et habituellement, la bile ne pose pas de problème, hein, sauf que quand celle-ci présente une trop forte concentration en cholestérol, on va avoir des formations de calculs. Les calculs, ce sont véritablement des petits morceaux de pierre, en fait, hein, dont l'expulsion est extrêmement douloureuse. C'est ce qu'on appelle donc la colique hépatique. Tous ceux qui en ont souffert s'en souviennent toute leur vie. Hein. En général, ça les marque.
Alors revenons effectivement, alors c'est très très douloureux la colique hépatique, mais la bile, ça sert à quoi exactement?
Alors en temps normal, quand on commence à manger, le cerveau ordonne la contraction de la vésicule biliaire hein, et la bile est donc déversée dans l'intestin grêle. Et la première partie de celui-ci, en fait, qu'on appelle le duodénum. Donc en fait, la bile, elle nous sert à assimiler les graisses plus facilement dans le sang. Bah oui, parce que n'en déplaise aux inconditionnels du régime, notre corps, qui porte en lui le souvenir de milliers d'années d'évolution et bien souvent de famine, aime bien faire des réserves, donc stocker les graisses. Autant avant, on mangeait quand on pouvait, maintenant, on mange quand on veut. Alors, il faut savoir que chaque année en France, 80 000 personnes se font enlever la vésicule biliaire. Or, selon une étude de 2005, 8% de ces opérations ne seraient pas nécessaires, ce qui fait quand même 6400 opérés par an.
Alors on s'en excuse hein, pour ces 6400 opérés par an, l'opération qui n'a servi à rien finalement.
Absolument, l'opération qui n'a servi absolument à rien. C'est quand même beaucoup 6400 personnes, hein, quand on pense tout d'abord évidemment aux risques potentiels et aux complications liées à la chirurgie, et puis aux coûts que ça implique aussi pour l'État et pour tout le système de santé. Alors, bon, que ceci se rassure, hein, les personnes qui ont perdu leur vésicule biliaire, en fait, en l'absence de celle-ci, la bile se déverse directement du foie dans l'intestin sans passer par la case stockage. Ils peuvent donc arrêter de se faire de la bile, mon cher Loïc.
Voilà, donc vous êtes en train de nous dire qu'on peut très bien vivre sans vésicule biliaire, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Absolument.
Mais qu'on n'est pas obligé de se la faire enlever, en tout cas.
On n'est pas obligé, non.
Merci beaucoup, docteur Adrien.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Et on retrouve tout de suite le mot du médecin, notre docteur Marion Tête de Bois. Et le mot du soir est le sudoku, et non pas le sudoku.
Tout à fait, à ne pas confondre effectivement avec le sudoku, ce fameux jeu de grilles de chiffres inventé par un Américain, mais à consonance japonaise.
Alors, qu'est-ce que c'est du coup le sudoku, docteur Marion, vous allez nous expliquer tout ça.
Alors le sudoku, c'est une maladie infectieuse due à une bactérie spiralée. Sodoku est un mot japonais. So égale rat et doku, poison.
Vous nous l'enlevez de la bouche, j'allais le dire.
Voilà, donc comprenez donc que c'est une zoonose transmise suite à la morsure d'un rat, d'une souris ou plus rarement d'un mammifère, les chats, les chiens, les belettes a priori.
Donc ayons peur des belettes, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Bon, alors concrètement, ça se traduit comment c'est cette fameuse maladie?
Alors en fait, c'est une maladie qui se développe en trois phases. Donc la première phase, c'est suite à la morsure, se développe une ulcération ainsi qu'un ganglion douloureux sur la peau à l'endroit même de la morsure. Ensuite, une fièvre assez élevée se développe avec frissons, etc. Et d'intenses maux de tête en général et douleurs articulaires et musculaires. La troisième phase, qui arrive après 3 à 7 jours suite à cette morsure, développe une éruption cutanée qui se généralise sur l'ensemble du corps, donc avec de grosses taches rouges et irrégulières sur l'ensemble de la peau. Et si effectivement ça n'est pas traité, ça peut se reproduire assez régulièrement.
Mais alors Marion, comment ça se traite cette fameuse maladie ?
Alors ne vous inquiétez pas docteur Loïc, effectivement ça se traite, il est nécessaire de faire un prélèvement pour pouvoir observer la bactérie au microscope. C'est la seule manière de pouvoir diagnostiquer cette maladie. Le traitement est assez efficace et se fait donc par antibiotiques, en particulier pénicilline, pendant une durée d'une semaine de traitement. Mais mon cher Loïc, encore faut-il ne pas être allergique à la pénicilline.
Donc en fait si on se fait mordre par une belette et qu'on est allergique à la pénicilline, c'est pas très bon.
A priori, ça va être un peu plus compliqué.
Merci, docteur Marion. Donc, évitez les belettes, mais ne prenez pas des antibiotiques. Ce n'est pas automatique. En tout cas, c'était le message. J'ai toujours le message, d'ailleurs, de santé publique qu'on peut donner. Merci, docteur Marion, pour le saut d'ocu, cette maladie qu'on connaît assez peu ici.
Il a beau beau le bébé, 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 il a beau beau.
Et on retrouve tout de suite les infos avec ou santé. Docteur Julie, vous êtes allée sur les forums internet avec des questions extraordinaires des internautes.
Je me suis perdue sur les internets en effet et j'ai trouvé une super question, la question de Ponelove78.
Déjà rien que le pseudo est un poème.
Voilà, Ponelove78 qui se demande, donc je vais lire sa question. Donc voilà. Alors, bonsoir à tous. Ma copine a des chats. Ils se battent souvent et un jour, il y en a un qui a mordu ma copine. On fait l'amour et j'ai peur d'attraper le sida du chat car je présente déjà deux des symptômes, c'est-à-dire la dépression et la diarrhée. Comment puis-je me faire dépister ? Doit-elle se débarrasser de ses chats ? Vos avis et réponses sont les bienvenus. Bonne soirée. Ponelove78.
Alors du coup, revenons un peu, Julie, sur justement le sida du chat, c'est quoi ? Et est-ce qu'on a des questions par rapport, enfin en tout cas des réponses à apporter voilà, donc, à Ponelove qui paraît
effectivement
être
hein.
dans une grande détresse.
Mais oui. Alors donc le FIV, encore appelé sida du chat, est une maladie virale contagieuse. Bien que l'agent responsable soit très proche de celui du sida humain, il n'est absolument pas transmissible à l'homme.
Donc on ne peut pas attraper le sida du chat ?
Absolument pas, Loïc.
Et alors les symptômes.
Que Ponelove78 soit rassuré.
Exactement. Alors d'où ça sort ces symptômes de diarrhée, de, etc., etc., qui nous dit il y a deux signes déjà du sida du chat.
Je pense premièrement que Ponelove78 a dû lui aussi se perdre sur les forums et l'internet pour pouvoir voilà, décrire ses symptômes. Mais en fait, je vais vous parler un petit peu de ce FIV justement. Donc le virus responsable du FIV, c'est un rétrovirus. La contamination, elle se fait par contact direct entre un chat malade et un individu sain. Elle peut se faire par la salive, notamment à l'occasion de morsures, donc des bagarres par exemple, de léchage ou par voie sexuelle ou lors d'accouchement. Donc, traitement et prévention du sida du chat. Donc, il faut savoir qu'une fois que la maladie est déclarée, des traitements très lourds à base d'antibiotiques et de corticoïdes peuvent soulager l'animal, mais l'issue est toujours fatale et il n'existe à l'heure aucun acte. Il n'existe à l'heure actuelle aucun vaccin contre le FIV.
Eh ben, c'est rassurant, Julie. Merci. En tout cas, le sida du chat, on le rappelle, ce n'est pas transmissible à l'homme.
Non.
Là, on parlait évidemment du sida pour le chat, malheureusement. C'est que pour les chats, donc tant pis pour les chats.
Tant pis pour les chats.
Tant pis pour les chats. Merci, en tout cas, docteur Julie, pour cette info forum.
Quoi de neuf, docteur ?
Allez, dernière rubrique avant de se quitter, vous l'attendez, c'est les brèves de salle d'attente. Et attention, alors les brèves de salle d'attente, toute
notre
l'équipe joue, c'est la séquence un peu préférée. Attention à vos micros. Allez, on part en Angleterre et un labrador, du coup, a un petit peu sauvé sa maîtresse. Alors, sa maîtresse, on s'entend en fait, hein, c'est pas sa copine chienne, mais du coup, c'est bien sa maîtresse. Comment ?
De la noyade.
Non, alors pas enfin, de la noyade.
De quelle manière tu
De veux... quelle manière Ouais, je voudrais savoir en
Est-ce
fait
que
comment.
C'est un chien d'aveugle.
Non, c'est pas un chien d'aveugle.
Elle lui a fait le massage cardiaque en premier secours.
Non, pas du tout. Ah, non, mais... absolument pas.
Elle
Bien
l'a
tenté.
Léché pour la réchauffer.
Non, du tout, du tout. Alors, je vous aide un peu. Le chien avait un comportement étrange et se frottait un peu contre la poitrine de la sexagénaire.
Oh
tout ça est très sexe.
Oui, elle a permis de détecter une tumeur mammaire.
Oh, pas mal, hein. Exactement, sauvé par une
Docteur
truffe. Exactement. En gros, le chien a détecté, il était... Alors, elle décrit, hein, cette Karine Gibson était tout heureuse de revoir son labrador au retour des vacances. Et elle décrivait son chien comme un chien super glu. Il me sautait dessus, sentait mon haleine, me regardait dans les yeux, se frottait contre ma poitrine. Et là, elle a eu la puce à l'oreille. Et elle est allée voir son médecin, mammographie, et effectivement, du coup, cancer du sein. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout s'est bien passé. Le traitement a réussi, et donc véritablement, le labrador lui a sauvé la vie. On part au, partons à Toulouse.
Ah,
à
en
Toulouse,
France.
Exactement. Une quinquagénaire. Et c'était mercredi matin à Toulouse. Voilà, un petit peu. On va dire abuser des services d'urgence, à votre avis comment ?
Sur-sollicitation, c'est-à-dire qu'elle c'était pas forcément nécessaire. Elle a appelé les services d'urgence.
Elle les a appelés pour qu'ils aillent lui chercher une agendas dans le congélateur.
Alors, c'est pas une agendas, hein, c'est plus le nombre.
Pour aller à la pharmacie lui chercher son ordonnance de médicaments.
Non, pas exactement. Alors, c'est plus le nombre de fois qu'elle a appelé les services. 18 fois en une nuit.
En une nuit,
En une seule nuit. C'est là que c'est assez. Les appels devaient être comme relativement courts.
C'est donc bien 18 fois. Donc
c'est
Julie,
plus de 18 fois. Non, c'est plus de 18
avant.
Fois. Là, c'est bien plus de 18 fois.
20, on va dire 2 fois par heure.
50 à gauche, beaucoup plus que 50.
Une centaine.
Plus 150.
D'une centaine. Oh là 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 là.
Plus.
200.
Vous n'êtes pas loin de 1000.
On est 878.
A appelé 600 fois en une journée. Seule nuit. Une femme de 54 ans. Alors, l'article dit quand même qu'elle semble souffrir de troubles psychologiques. Effectivement.
A priori,
c'est
le diagnostic peut être posé.
Le diagnostic peut être posé. Elle a appelé 400 fois le 115, 200 fois le 15, 18 fois le 18, comme quoi il y a une certaine logique, et 8 fois les services de police. Voilà, donc, bon, grosso modo, ils en ont eu un petit peu marre, et à 5h20, ils sont allés l'interpeller, la pauvre dame qui a appelé les secours. Donc,
c'est pas les secours, c'est la police qui est venue la chercher.
Police, exactement.
Tendre le bâton.
Voilà, on en profite pour rappeler les numéros d'urgence. Le SAMU, évidemment, c'est uniquement si c'est des véritables urgences vitales et urgences médicales, c'est le 15. Les 18, eh bien, c'est les pompiers, et le 17, la police ou la gendarmerie, et le 115, le SAMU social, pour tous les problèmes, les urgences sociales et d'hébergement. Voilà pour la petite chronique. Allez, on part une dernière fois au Népal et après on se quitte. Au Népal, alors un jeune alpiniste retente l'ascension de l'Everest, mais dans des conditions un peu particulières.
En marche arrière, Loïc.
Alors pas en marche arrière.
Ah non, mais il est handicapé en fauteuil roulant.
Non, il n'est pas handicapé, vous avez des drôles d'idées, pas du tout. Absolument pas. Alors je vous aide un peu, il a déjà fait l'ascension de l'Everest.
Il a décidé de le faire sur un pied cette fois-ci.
Alors c'est pas loin d'être ça quand même.
Parce les yeux fermés.
Non, sur les mains.
C'est pas sur les mains. Mais par contre, il avait déjà tenté une première fois l'Everest. Ça s'était pas très
bien
passé.
Est-ce qu'il avait réussi la première fois?
Alors il l'avait fait, mais ça s'était pas super bien passé, notamment lié au froid.
Tout nu? Bah non, du coup.
Non, pas tout nu.
Ah, du coup, à l'inverse, fortement habillé.
Il avait été fortement habillé, mais surtout, la première ascension avait été un succès, mais un succès quand même relatif, parce qu'il avait perdu, notamment à cause du froid, certains...
D'usage?
Certains... Ah, il avait perdu la vue,
pas de bras,
et du coup,
non,
il n'avait pas pu
vue,
observer le...
On... Pas de bras, pas de chocolat.
Alors, c'est pas loin d'être ça,
pas
malheureusement. Alors, quand même, on souligne son courage, il avait été amputé de 9 doigts. Sur la première, lors de sa première ascension, et il retente l'ascension de l'Everest. Il faut quand même le dire que c'est le premier et le seul alpiniste à essayer d'atteindre le plus haut sommet du monde depuis le séisme qui a fortement dévasté le Népal fin avril. Donc voilà.
Et donc c'est courage sans ses doigts de pied,
moi, je
ou sans ses doigts de main.
En tout cas, courage à lui sur cette intervention.
Il n'y a plus qu'un doigt à perdre.
Exactement. Merci beaucoup, docteur Adrien. 17h59, c'est la fin petite consultation entre amis. On se retrouve la semaine prochaine à la réalisation cet après-midi. Il y avait notre chère Charlène. Vous retrouvez évidemment plus d'infos sur notre site internet www.radiocampusparis.org. Les podcasts d'émissions, vous pouvez aller sur notre page spéciale émission. On se retrouve la semaine prochaine de 17h30 à 18h.